Terre, le 18-20.
On y est. Dans moins de 4 jours, le premier tour des législatives. 7882 candidats s'affrontent dans 577 circonscriptions. Et on est sans doute nombreux à s'interroger. Faut-il, oui ou non, donner une majorité absolue à Emmanuel Macron et donc lui laisser les coups des franges pour gouverner? A priori, oui, si l'on a voté sans ciller pour le candidat d'En Marche le 7 mai dernier. Moins sûr si l'on a surtout voté contre le Front National. Et qu'en pensent tous les déçus? Les Républicains, la France Insoumise, les Verts, les frontistes, y aurait-il comme une envie de revanche? Pour Emmanuel Macron, en tout cas, les choses sont simples, il l'a dit ce matin, les Français doivent répondre à une seule question, stop ou encore? Encore répondent les sondages qui prédisent tous une large majorité à La République En Marche. On en débat ce soir et on attend toutes vos questions, vos commentaires au 01 45 24 7000 sur internet franceinter.fr et sur Twitter. Hashtag Telson.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et c'est Didier qui ouvre ce téléphone sonne. Bonsoir Didier, soyez le bienvenu. Vous nous appelez des Hauts-de-France.
Voilà. Bah écoutez, bonsoir. Bon, je trouve dommage qu'on parle de revanche. Allô ?
Oui, on vous écoute.
Ah bon, d'accord. Non, la question que je me pose, moi, sur le résultat des législatives, c'est est-ce que on n'aurait pas une perte de démocratie si on avait une majorité absolue de La République En Marche, qui en fait risquerait de voir des députés, quels qu'ils soient, oublier ceux qui ont fait l'effort d'aller voter, parce que un de nos grands problèmes, c'est l'abstention. Et moi je me dis je suis sûr qu'il y a une majorité absolue pour La République En Marche, ben pourquoi je vais aller voter?
Merci Didier pour cette première question. Plusieurs éléments pour vous répondre. Frédéric Métezeau, chef du service politique ici même à France Inter. Salut Fred.
Bonsoir Mike.
Arnaud Le Parmentier, éditorialiste au Monde. Rebonsoir.
Bonsoir.
Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis en duplex de France Bleu Nord à Lille, Rémi Lefebvre. Bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille. Qui veut répondre à notre premier auditeur, Didier, Frédéric Métezeau?
Je dirais à Didier que peu importe la couleur politique de la future majorité, il ne s'agit pas de juger l'étiquette de cette future majorité, c'est que en France, sous la Ve République, à l'exception de 1988, il y a toujours eu des majorités absolues pour le parti du président qui venait d'être élu. Ça a été le cas en 1981, ça a été le cas en 2007, ça a été le cas en 2012 où François Hollande avait eu la majorité. Donc la question de majorité absolue égale déni de démocratie ne me semble pas plus posée dans le cas précis d'une éventuelle majorité absolue En Marche, puisqu'elle s'est quasiment toujours réalisée et il n'y a pas eu de vol de démocratie par François Mitterrand, par Jacques Chirac ou par Nicolas Sarkozy. Si après, si j'essaye de décrypter ce que nous disait notre auditeur Didier, c'est-à-dire que à quoi ça sert d'aller voter si on nous annonce par avance une victoire, bah là, dans ce cas-là, c'est la question de les sondages font-ils
Justement, Brice Teinturier, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment un raz-de-marée à 4 jours, hein, j'entends, hein. Dans vos prévisions, on en est où précisément? De quoi on parle?
Bon, en fait, il y a un paradoxe qu'il faut bien mesurer. C'est-à-dire que nous avons dans nos enquêtes environ 26-28% de Français qui souhaitent que La République En Marche ait une majorité absolue. Alors 26-28% de Français, c'est très loin d'une majorité absolument grande, importante, massive ou d'un raz-de-marée. C'est beaucoup plus que pour les autres formations, mais c'est très loin. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y en a 30% supplémentaires qui souhaitent qu'il ait beaucoup de députés. Pas une majorité absolue, mais beaucoup de députés. Donc en réalité, c'est le mode de scrutin qui accentue les effets et c'est la position centrale de La République En Marche qui fait que dans les seconds tours, quand elle est qualifiée, et elle sera probablement qualifiée à peu près partout parce que c'est une force à un assez haut niveau, aux alentours de 30%, et que les forces suivantes sont loin derrière. Et que c'est une force homogène sur le territoire. Donc elle sera qualifiée a priori pratiquement partout. Et quand elle se trouve confrontée, eh bien, à un candidat de France Insoumise, ou un candidat LR, ou un candidat du Front National, ou même dans une triangulaire, il y a des reports de voix qui jouent en sa faveur. Et du coup, le mode de scrutin ensuite accentue, parce que c'est un scrutin majoritaire à deux tours, à travers ces reports, accentue le nombre de victoires potentielles. Donc on part en voie des Français qui ne sont entre guillemets que 26% à vouloir qu'il ait une majorité absolue. Et on devrait avoir, et je réponds à votre question à l'arrivée, probablement aux alentours de 400 députés. Mais c'est très sensible et il faut être prudent malgré tout sur les simulations en siège. En tous les cas, ce qui se dessine, c'est vraiment une majorité absolue en siège.
Rémi Lefebvre, comment recevez-vous le commentaire de Didier?
Bah, effectivement, il y avait deux choses dans son commentaire. Il y avait d'abord l'idée que pour la démocratie, ça ne serait pas très sain qu'il y ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est effectivement tout le paradoxe du mode de scrutin en démocratie. Hein. Un mode de scrutin, ça fabrique à partir des voix, ça fabrique des élus avec tout un mécanisme de distorsion qui fait qu'effectivement il y a des mécanismes d'amplification qui avaient déjà eu lieu en 2012. En 2012, les socialistes avaient eu 31% des voix au premier tour des élections législatives et ils avaient eu la majorité absolue au second tour. Donc effectivement, il y a une amplification par le mode de scrutin majoritaire du vote des électeurs. Ça, j'allais dire, ça fait partie de l'alchimie de ce mode de scrutin qu'on peut critiquer, on peut préférer la proportionnelle, etc., qui finalement représente plus les diverses sensibilités politiques. Et puis après, il y avait un deuxième élément dans sa question, c'était de dire finalement, aujourd'hui, la prophétie dominante, hein, le discours dominant, c'est de dire que Emmanuel Macron va obtenir la majorité absolue, et effectivement, ça le booste sans doute, hein, ça lui donne un effet de dynamique, ça renforce peut-être l'effet de légitimisme qui peut inciter une partie des électeurs à se dire, voilà, on a élu un président de la République, il faut lui donner une majorité. Mais je voudrais juste terminer mon intervention en disant, faire attention, les électeurs ne votent pas en disant, on va donner une majorité absolue à Macron, ils votent pas sur ces critères-là, hein. La question de l'existence ou non d'une majorité absolue, je suis pas sûr que ça soit un critère de choix des électeurs. Les électeurs, ils choisissent entre des électeurs, ils ont des préférences, ils votent plus ou moins stratégiquement, et donc on peut pas réduire le vote à l'idée que on va donner ou non une majorité absolue au président de la République.
Arnaud Leparmentier.
Ce que je pense qu'il faut voir, c'est la révolution qu'il y a sur l'approche que l'on a sur le centre. Emmanuel Macron est au centre. Pendant des années, des décennies, on nous a expliqué le centre, ça n'est pas possible, il est nulle part, il faut qu'il soit à droite, soit à gauche. Donc on a expliqué pendant des années qu'il ne pourrait pas être plus élu, que François Bayrou n'avait pu être élu, que c'était une impossibilité absolue. Et bien là, la preuve du contraire a été faite parce qu'on n'était plus dans un clivage droite-gauche, mais dans un quadripartisme. Et la surprise vient, je vous rappelle, la campagne électorale, où beaucoup disaient quelle majorité pour Emmanuel Macron, il n'en aura pas. Mais la surprise, elle est mécanique. Comme il est au centre et en premier, ben, si vous avez au deuxième tour un insoumis ou un socialiste face à Emmanuel Macron, ben, le centre et la droite voteront pour lui, donc il aura une grande majorité. D'un autre côté, si vous avez un Emmanuel Macron face, un République en marche, je confonds les initiales, et un Républicain, eh bien, naturellement, les socialistes donneront leur apport. Donc la position centrale dont on a expliqué aux électeurs pendant 40 ans qu'elle était un handicap devient un atout majeur qui fait qu'on risque d'avoir une majorité absolue pour le président de la République. Ce qu'il faut noter effectivement, c'est que la seule fois il n'a pas eu, c'est quand Mitterrand avait dit « il n'est pas bon qu'un seul parti gouverne », c'était en 1988.
Avant de retourner au standard, je vous soumets cette question qui est à la fois un commentaire sur franceinter.fr, commentaire très pertinent de Sophie. Elle nous dit « J'ai voté Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle, mais pour les législatives, je suis perdu car je ne sais plus qui incarne l'opposition ». Qui incarne l'opposition, Brice Teinturier ?
C'est aussi un des éléments qui explique la dynamique qui est en train de se fabriquer en faveur de la République en marche. Parce que l'opposition, les oppositions sont décapitées. À droite, c'est très très frappant. Il n'y a pas chez les LR quelqu'un qui prend le relais et ce n'est pas lui faire injure que de considérer que celui qui mène la campagne aujourd'hui chez les LR n'arrive pas à incarner un leadership possible. Et dans nos enquêtes, on voit que finalement les LR se mettent à regretter Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, c'est-à-dire des leaders d'hier. Donc il y a une absence de leader à droite. Et à gauche, c'est la même chose. À gauche, Benoît Hamon n'est pas celui qui aujourd'hui peut incarner la campagne des législatives, pas plus en réalité que Cambadélis ou d'autres leaders. Et ça accentue le désarroi des électeurs et évidemment la prime à celui qui incarne aujourd'hui la fonction présidentielle et dont le mouvement, comme l'a expliqué Arnaud Leparmentier, est en position centrale, bénéficiant donc des reports à chaque fois de gens de gauche ou de gens de droite.
Frédéric Mitézo.
Oui, il y a deux formations qui sont très homogènes en leur sein ou assez homogènes en leur sein et puis qui sont dans une opposition très nette. C'est le Front National et la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon Mélenchon, on l'a vu, se démultiplie. Il est du lundi au jeudi sur le terrain pour faire la campagne des candidats insoumis un peu partout en France. Et puis après, il fait sa propre campagne à Marseille en fin de semaine. Et puis le Front National, Marine Le Pen, il y a une dizaine de jours, a dit que sitôt les législatives passées, elle allait lancer les assises de l'opposition pour montrer que la seule véritable opposition cohérente, c'était elle. Donc il y a ces deux formations qui, en tout cas dans le discours et dans la posture, apparaissent comme la véritable opposition.
Avant d'en tourner au standard et pour rester sur le FN, question qui vous est directement adressée, Brice Teinturier, Monsieur Ipsos, Paul à Massy qui nous dit « Combien le Front National peut-il au mieux espérer de sièges à l'Assemblée ?»
Bien, dans nos simulations en sièges aujourd'hui, on a entre 5 et 15 sièges pour le Front National. Ce qui montre là encore qu'il peut être à un assez haut niveau. On est à 17% d'intention de vote pour le Front National en voix, mais que ça ne se traduit pas en sièges, parce qu'encore une fois, le scrutin majoritaire à deux tours suppose que vous ayez des reports, que vous soyez capable de faire des alliances. Ce n'est pas le cas du Front National, et donc il est pénalisé au niveau des sièges, même si dans toute une série de circonscriptions, au moins une quarantaine, il est arrivé en tête du second tour, et il a des niveaux particulièrement élevé, mais ça ne suffit pas pour faire un groupe forcément important. Cela étant, rappelons qu'il a deux sièges aujourd'hui et qu'à l'exception de 86 avec un mode de scrutin différent, le Front National n'avait pas de représentant à l'Assemblée, donc ça marquerait malgré tout une progression du Front National.
On retourne au standard. Dominique nous appelle de Chalon-sur-Saône. Bonsoir, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour, merci de nous donner la parole.
Je vous en prie.
Voilà, je voulais, avant d'entrer dans mon propos, dire que effectivement, peut-être que c'est cette fois-ci, c'est, je dirais pas la première fois, mais qu'on se rend compte que les élections législatives sont vraiment des élections importantes. Et bon, étant enseignant, je dis toujours à mes élèves que oui, l'élection présidentielle est une élection importante, mais ceux qui font les lois, ce sont les députés. Et c'est là où on se rend compte que pour gouverner, un président a besoin d'une majorité présidentielle. Et donc, c'est pour cela que les élections législatives sont vraiment des élections importantes pour lesquelles il faut se mobiliser autant que pour l'élection présidentielle. Voilà.
Donc vous êtes décidé à aller voter, Dominique, visiblement.
Comment ?
Vous êtes décidé à aller voter.
Bien sûr, bien sûr. Et donc mon propos était celui-ci, que en fait, on s'aperçoit que même pour la majorité présidentielle, le parti du président, on pratique le parachutage. Et je dis que le parachutage n'est pas forcément une bonne chose pour l'élection, puisque on peut être tenté de donner effectivement le soutien au parti du président pour aller dans la dynamique de son élection, mais que effectivement ce sont des élections locales et que pour moi, effectivement, je ne me pose la question de savoir si je dois voter pour quelqu'un que je ne connais pas ou plutôt pour un candidat qui est connu localement, mais qui se présente sous l'étiquette d'un autre parti.
Message reçu, merci Dominique. Arnaud Leparmentier.
Moi, je voudrais faire une remarque qui n'ira peut-être pas dans le sens de ce que dit notre auditeur. Élection importante, non. En fait, on s'aperçoit, alors qu'on croyait que ce seraient les législatives qui seraient si importantes, parce que fondamentalement, au premier tour, le président de la République n'aurait qu'un score de 20-24%. Eh bien non. De nouveau, la règle de la Ve République, l'inversion du calendrier décidé par Chirac Jospin avant les élections de 2001, montre que l'élection présidentielle est la reine de tous les scrutins et que de surcroît est donné en général, et je pense qu'on n'aura pas de surprise là-dessus, seulement peut-être sur le niveau réel de la victoire, que ces élections législatives ne sont de facto qu'un vote de confirmation. Et je voudrais noter que ce n'est pas des élections locales, c'est des élections par circonscription. On vote des députés, c'est des élections nationales. Alors ce qui est vrai, c'est que les gens de La République En Marche sont souvent des inconnus ou pas très connus, qu'il faut mieux avoir l'investiture En Marche et n'être pas connu que être très connu et être étiqueté socialiste ou républicain, mais ça reste une élection nationale.
Frédéric Mettezeau puis Rémi Lefebvre.
Oui, je voulais poursuivre sur ce que vient de dire Arnaud Leparmentier, élection locale ou nationale. Et il y a un petit paradoxe dans ce que vient de dire Dominique, qui dit d'un côté fort justement que les députés votent la loi. La loi, elle s'applique pour tous, on est député de la nation, et de l'autre que c'est une élection locale. Donc effectivement, il y a un petit paradoxe que je voulais souligner. souligné. On peut même aller plus loin. Faut-il être attaché à un territoire, quel
là,
qu'il soit?
Il dénonce les parachutages.
Il dénonce les parachutages. Et en même temps, si on est issu d'un territoire, on peut être aussi peut-être un peu plus influencé par tel ou tel groupe de pression. Et dans ce cas-là, quand on doit voter la loi qui s'applique à tous et qu'on est tenu par tel ou tel groupe de pression local, est-ce que c'est vraiment la loi de la nation qu'on vote? Effectivement, il y a peut-être un paradoxe entre être élu d'une circonscription et voter une loi pour tous.
Rémi Lefebvre, parachuté à Lille.
Le parachutage, il y en a de moins en moins, hein. Alors notre auditeur a une conception un peu particulière du parachutage, puisqu'il estime que quelqu'un est parachuté quand il ne le connaît pas. C'est pas tout à fait pareil. Un parachutage, c'est quelqu'un qui vient d'un autre territoire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de candidats en marche qui n'ont pas de notoriété, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas issus du territoire. Alors c'est vrai que la question qui se pose, c'est la question des ressources locales et de l'ancrage local. Ce qui est stupéfiant dans cette élection, on va voir ce qui va se passer aux deux tours, mais c'est qu'il y a tendanciellement une baisse de l'ancrage local comme ressource politique. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, il y a une prime au renouvellement. On voit que l'ancrage local des députés implantés, qui ont passé beaucoup de temps dans leur circonscription le week-end, fait les comices agricoles ou les fêtes associatives, finalement, tout ça n'est que de peu de poids face à des vagues de plus en plus nationales. Et donc, pour répondre à Dominique, les élections législatives sont de moins en moins locales, c'est-à-dire qu'elles obéissent de plus en plus à une logique nationale qui font, et pour répondre à la deuxième pan de sa question, qu'elles sont de moins en moins importantes, on peut le déplorer, ces élections législatives, dans la mesure où elles sont de moins en moins autonomes par rapport à des élections présidentielles qui écrasent la vie politique. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est assez peu démocratique, c'est-à-dire qu'au fond, de plus en plus, à toutes les élections, ce qui donne le la politique dans notre vie politique, c'est cette élection présidentielle qui vampirise tout, et beaucoup finalement de députés se disent, bon, quoi que je fasse de toute façon à l'Assemblée, quoi que je fasse même dans ma circonscription, eh bien mon sort électoral dépend du prochain président de la République. Je ne suis pas sûr que ça soit idéal sur le plan démocratique.
Avant de repartir au standard, je vous soumets la question de Marie sur franceinter.fr. Étant donné le nombre très important de candidats dans certaines circonscriptions, étant donné la loi électorale, un candidat ne peut se maintenir au second tour que s'il a recueilli au moins 12,5% des voix des inscrits. Que se passera-t-il
s'il a fini dans les deux premiers?
Ou s'il a fini dans les deux premiers, mais ça Marie ne le dit pas. Que se passera-t-il si aucun candidat n'obtient le nombre de voix nécessaires pour se maintenir? C'est un cas de figure possible?
Mais non, justement, puisque de toute façon, les deux premiers du premier tour sont qualifiés automatiquement. Donc il y aura forcément Marie. Deux personnes au minimum.
Ok, Marie a sa réponse. J'aimerais revenir, Brice Teinturier, sur ce que disait Dominique tout à l'heure sur le manque de notoriété de certains candidats, le parachutage. Ça peut être un handicap pour les candidats de La République En Marche?
Eh bien, sur le papier, on aurait pu le penser, et ce qu'on est en train de mesurer, c'est que pas du tout. Et là, il y a effectivement quelque chose de tout à fait nouveau. Avant, il y avait ce qu'on appelait la primo sortant, à l'expérience politique, à l'enracinement local, aux députés sortants, etc. Ça semble ne pas jouer, ou très très peu jouer, c'est ce qui handicape d'ailleurs beaucoup et les LR et les PS. Et quand on demande aux Français aujourd'hui quels sont les critères qui pour eux sont primordiaux dans cette élection, hein, pour aller voter aux législatives, 8% seulement nous disent le fait qu'il ait déjà été député, où 20% son expérience politique et 81% mettent en avant l'honnêteté, 71% le programme, 40% la formation politique qui le soutient. Donc on voit bien qu'on a une nationalisation du vote qui fait qu'on vote principalement pour donner sa chance, c'est ça qui revient le plus à ce président qui essaye de fabriquer quelque chose d'un peu différent. C'est en tous les cas la perception qui est issue de la formation de son gouvernement et c'est ça qui joue beaucoup. Parce qu'il n'est pas au centre, il n'est pas un candidat centriste, il est un candidat en position centrale qui agrège des personnalités de droite et de gauche. C'est ça qui fait la différence. Mais donc la nationalisation du vote joue beaucoup. Elle joue aussi au détriment du coup de l'enracinement local et des sortants. Et c'est un point qui fait le pont avec la question précédente parce que je voudrais redire que dans la Constitution, on n'est pas un super maire d'une circonscription quand on est député, on est un représentant de la nation. Donc on vote logiquement pour quelqu'un qui va fabriquer la loi ou contrôler le gouvernement et qui en tous les cas est un représentant de la nation.
Bonsoir Daniel, vous nous appelez de l'Aveyron, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Alors, j'ai 70 ans et j'ai voté Macron parce que je suis contre la gérontocratie. Une constatation sur notre département, là, dans ma circonscription, les représentants d'En Marche, pour lesquels j'aurais bien voulu voter, ont 62 et 64 ans. Ça fait 126
c'est
ans.
Ça. C'est ça, 126 à 2. Et c'est beaucoup trop à vos yeux.
Non, c'est pas le problème. Et peut-on espérer ou envisager un âge limite pour se présenter à un mandat électoral?
Ah ben écoutez, merci Daniel, je soumets cette question à notre quatuor qui veut répondre. Frédéric Mettezo.
Je vois pas au nom de quoi on pourrait fixer cet âge limite et surtout quel serait cet âge limite? Est-ce que on considère qu'on est trop vieux à 60, à 65 ou à 70 ans? Si Daniel estime qu'il faut effectivement un Parlement plus jeune, parce que jusqu'ici le Parlement était en moyenne plus vieux que la population française,
voilà,
on peut imaginer, on peut souhaiter que le Parlement soit à l'image de la société et donc rajeuni. Après, quel sera le critère pour estimer qu'on est trop vieux? On est toujours le vieux de quelqu'un, je pense.
Mais
oui, Brice Teinturier.
Je voudrais dire à notre auditeur, pour le rassurer par rapport au cas de figure de sa circonscription, que quand on compare l'âge moyen des presque 8000 candidats que nous avons cette fois-ci à l'âge moyen des candidats en 2012, il y a quand même un petit rajeunissement, qui n'est pas énorme, hein, de 2 ans environ en moyenne, mais que ce rajeunissement sera certainement beaucoup plus marqué à l'issue des élus. Et je pense qu'on aura une chambre où l'âge moyen va fortement baisser par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Donc le rajeunissement que vous souhaitez, manifestement, il est en marche, si je puis dire.
Frédéric Mettezo.
Et j'ajoute que si la loi présentée par François Bayrou la semaine dernière va à son terme et limite les mandats consécutifs à 3 mandats à la même fonction, de fait, ça permettra un renouvellement, un rajeunissement et puis une tournante, si je puis dire, un turnover, pour employer un vilain mot anglais, dans les mandats et donc chez les députés.
Et qu'en dit le plus âgé autour de cette table, Arnaud de Parmentier?
Le plus âgé qui ne l'est peut-être pas. Il y a concurrence. D'abord, naturellement, constitutionnellement, chacun a droit d'être élu. Donc, on peut se faire élire à 99 ans ou 99, comme dirait notre auditeur. La question qu'il y a aussi, c'est qu'il faudra que dans La République En Marche, il y ait quand même quelques personnalités expérimentées. Parce que si vous avez que des novices qui arrivent à l'Assemblée nationale, il y a quand même quelques commissions importantes, la commission des lois, la commission des finances. Je ne vois pas que l'on puisse présider, ou en tout cas systématiquement présider ça, quand on découvre complètement le Parlement. Normalement, il y a une espèce d'apprentissage. Donc ça devrait donner une opportunité aux quelques survivants du bayrouisme ou du centrisme qui, ayant déjà siégé dans des Parlement, pourront peut-être prétendre à des fonctions représentatives ou des fonctions plus fortes au Palais Bourbon.
Rémi Lefebvre, un dernier commentaire sur cette question?
Oui, bah écoutez, de toute façon, on a une hyper professionnalisation de la politique, hein, qui aujourd'hui marque les députés. Il y a la moyenne d'âge de l'Assemblée nationale, c'est 56 ans, c'est une des plus élevées d'Europe. Et donc effectivement, il y a une aspiration légitime au renouvellement. Il y a 361 députés qui sont candidats à leur succession. Donc effectivement, le renouvellement, il est plutôt du côté d'En Marche, dont la moyenne d'âge des candidats est de 45 ans, que des partis établis qui ont beaucoup de mal à se renouveler et qui considèrent trop souvent que les mandats pour les députés, c'est des mandats à vie, hein, parce que la politique est dans ces partis dominants considérée comme un métier. Et donc, on va voir ce qui va se passer dans les années qui viennent. Est-ce qu'on va avoir un processus de déprofessionnalisation de la politique? Est-ce qu'on va pas mesurer aussi que le noviciat en politique peut être un handicap pour ces députés En Marche qui peut-être vont être un peu godillots, on va le voir, vis-à-vis d'un président qui veut aller vite et qui aura la tentation peut-être de ne pas beaucoup écouter sa majorité. En tout cas, du point de vue des spécialistes de sciences politiques qui s'intéressent aux métiers politiques, c'est assez fascinant ce qui se passe, puisqu'on va avoir vraisemblablement une véritable purge à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on va voir arriver des dizaines et des dizaines de nouveaux députés, de gens qui n'ont jamais fait de la politique, qui vont apporter de nouvelles visions, peut-être peu idéologiques, avec peu d'expérience. Mais en tout cas, ça va être un observatoire extrêmement intéressant pour qui s'intéresse à la politique.
Brice Teinturier, puis on repart au standard.
Cette question du renouvellement, c'était le moteur de l'élection présidentielle. C'était la demande principale exprimée par les Français. Je crois que c'est ce qui va se produire malgré tout à ces législatives, à la fois pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais également pour une autre raison importante, qui est la loi qui a été votée sous le quinquennat de François Hollande contre le cumul des mandats, un mandat exécutif comme le fait d'être député européen ou français ou sénateur, et de le cumuler avec, par exemple, le fait d'être conseiller municipal. C'est ça qui provoque un renouvellement extrêmement profond, qui fait que vous avez aujourd'hui, et c'est beaucoup, environ 225 députés sortants qui ne se représenteront pas. Donc on a déjà un taux de renouvellement important qui va jouer grâce à cette loi et qui va être accentué par probablement l'offre de candidature En Marche et le fait qu'elle est bien placée, semble-t-il, pour remporter de nombreux sièges. Donc les deux cumulés vont considérablement modifier la sociologie et la composition du personnel politique national, et je crois que c'est très important à la fois pour que ce personnel ressemble davantage à la société civile, mais aussi parce que c'était, encore une fois, le moteur de l'élection présidentielle.
On part à Toulouse, nous attend Atul. Bonsoir Atul, nous vous écoutons.
Bonsoir à tout le monde. J'avais une question à l'ensemble de vos intervenants. J'ai été surpris par le nombre de ministres, de secrétaires d'État qui se présentent aux législatives. Donc ma question, c'était, est-ce que c'est dans le prolongement de la mandature Hollande, un vœu du chef de l'État d'avoir des membres de son gouvernement qui soient éligibles? Est-ce que c'est un risque de voir se démobiliser des membres du gouvernement pour aller briguer leur poste? Ou est-ce qu'il y a un risque finalement de voir ces gens rester en poste dans leur ministère et de voir leurs suppléants prendre finalement les fonctions dans leur circonscription? Donc je voulais savoir si c'était une obligation, un vœu, une stratégie politique.
Alors merci pour cette question à choix multiples, réponse à choix multiples également, Frédéric Mettezo.
Là encore, il n'y a aucune obligation, c'est comme l'âge limite. Un ministre n'est pas obligé d'être candidat aux législatives, un ministre qui était député n'est pas obligé de se représenter. Je crois qu'il y a 6 ou 7 ministres et secrétaires d'État qui sont candidats, c'est plutôt moins qu'auparavant. À certaines époques, il y avait la moitié ou les 2/3 ou les 3/4 du gouvernement qui étaient candidats, donc il n'y a aucune obligation. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Emmanuel Macron prolonge une règle de conduite édictée par Nicolas Sarkozy à partir de 2007, c'est qu'un ministre battu aux législatives ne peut plus être ministre. C'est pas dans la Constitution, c'est pas dans la loi, c'est devenu une pratique républicaine, d'ailleurs, qui a été à géométrie variable, parce que Nicolas Sarkozy l'avait instauré en 2007, Alain Juppé en avait fait les frais, et puis après, il y avait quelques ministres qui étaient passés entre les gouttes, là, Emmanuel Macron le redit. L'a dit et redit, tous les ministres battus ne pourront plus être ministres, mais dans tous les cas, il n'y a aucune obligation. La seule obligation, elle peut être morale, c'est qu'un ministre peut aller en quelque sorte se légitimer, se ressourcer ou se relégitimer auprès du suffrage universel. C'est d'ailleurs l'argument utilisé pour la défense de Richard Ferrand, c'est les Français jugeront.
Arnaud Leparmentier.
Ce qu'il faut voir, c'est que dans les autres pays, les démocraties parlementaires, les ministres sont nécessairement des parlementaires. Au Royaume-Uni, vous êtes obligatoirement un parlementaire. En Allemagne, vous êtes obligatoirement un parlementaire. Je suppose qu'en Espagne, ça ne doit pas être très loin. C'est-à-dire que les ministres doivent quand même, d'une manière ou d'une autre, être des élus du peuple ou des élus tout court. Sinon, on a des ministres qui sont des techniciens. Normalement, c'est l'administration qui est faite pour ça. Donc moi, je trouve normal que ces gens-là soient élu à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, par le peuple. Et ce que je note aussi, c'est que Emmanuel Macron tente des personnalités de la société civile, tant bien lui en face, moi j'espère que ça réussira. Je note que par le passé, ça n'a pas toujours été très très brillant, mais peut-être que nous allons vers une nouvelle ère.
Il y a aussi des réussites.
Ouais, ben justement, je vous soumets, un mail, un courriel de Benjamin qui nous dit « Électeur dans l'ouest de la France, je suis frappé par le fait que des candidats En Marche soient présentés comme étant issus de la société civile, alors que bien que trentenaires, ils ont déjà une longue carrière d'apparatchik politique dans les structures parallèles du PS, Benjamin de Cité, l'UNEF, MJS, Mutuel, cabinet politique, plus qu'un renouvellement du système, ce qui nous est vendu, n'assistons-nous pas plutôt à un formidable effet d'aubaine pour ces jeunes pros de la politique ?»
Alors c'est partiellement vrai, c'est une très bonne remarque, mais elle est partiellement exacte. Il est vrai que les candidats de La République En Marche ne sont pas tous, loin s'en faut, des candidats issus de la société civile et qui n'auraient aucun lien avec la politique. Il y a parmi eux un certain nombre, soit d'assistants parlementaires, soit de personnes qui ont déjà pu tenter leur chance en termes de campagne. Donc ce ne sont pas tous des novices, ça répondra peut-être à une des inquiétudes d'Arnaud Leparmentier sur une future majorité Godillot et faite de novices. coulisses.
Bah, vous me parlez d'assistants parlementaires, ça m'inquiète beaucoup. Oui, effectivement,
on le voit.
En revanche, même s'il y a donc effectivement, et ça peut être très sensible dans certaines régions, et peut-être là où nous parle cette, d'où nous parle cet auditeur, en revanche, ça n'inverse pas, ça n'invalide pas le fait que malgré tout, il y a effectivement parmi ces candidats, beaucoup plus de candidats que d'habitude, qui n'ont exercé aucune fonction élective jusqu'à maintenant, ou qui n'ont pas eu de lien avec la politique.
Frédéric Mettezoy, on part au standard.
Benjamin, c'est bien ça, a tout à fait raison de rappeler qu'il y a un certain nombre de candidats en marche qui sont, comme on dit, des apparatchiks. Après, je voudrais retourner l'argument et cette société civile qui a été brandie par Emmanuel Macron. Est-ce que parce que on a fait de la politique depuis longtemps, on n'appartient pas à la société civile française? Est-ce que on peut être collaborateur de cabinet et assistant parlementaire tout en étant parents d'élèves, impliqués dans une association de parents d'élèves, aller dans un club de sport, faire de la chorale? Bref, il faudrait pas non plus tomber dans l'excès inverse qui peut tourner à la démagogie, voire au populisme, de dire forcément toutes les personnes qui ont gravité dans les structures politiques sont des affreux, coupés des réalités. Je pense que là encore, il y a une instrumentalisation du terme de société civile qui... D'ailleurs, en réalité, veut pas dire grand-chose, puisqu'on peut être un élu parfaitement intégré à la société, parfaitement connecté à tous les réseaux de sociabilisation, qui soient, je le disais, sportifs, culturels, éducatifs, etc.
J'ajoute à cela, Frédéric Mettezo, la question d'Isabelle. Puisqu'il y a beaucoup de candidats non professionnels de la politique à l'Assemblée, en tout cas, il y en aura peut-être beaucoup, y aura-t-il, nous demande-t-elle, une formation aux fonctions de député ?
Alors, c'est une vraie question. Oui, oui, c'est une vraie question qui se pose à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il y a des fonctionnaires à l'Assemblée nationale qui font marcher le Parlement, qui est une sacrée machine à faire fonctionner. Et ils forment effectivement les nouveaux entrants. Ils leur expliquent comment rédiger, déposer une loi, une question écrite, une question orale. Mais là, ce qui nous revient de l'Assemblée nationale, c'est que l'afflux de nouveaux parlementaires va être tel qu'il va falloir faire un nombre de formations et des formations accélérées de façon à peu près inédite. Donc oui, la formation existe, mais là, ils vont se retrouver avec énormément d'élèves, d'étudiants.
Un dernier auditeur au standard. Bonsoir Jean-Marie, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Suite à l'attitude, on dira plus que rigide, de France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas voulu donc faire d'union avec les autres forces de gauche, notamment Europe Écologie Les Verts, donc il y a atomisation des forces de gauche et la France Insoumise, donc ne donne pas à la gauche toutes ses chances de réussite. Ma question est la suivante, donc quels sont les nombres de députés que pourraient obtenir France Insoumise et Europe Écologie Les Verts en l'état des sondages actuels ?
Et le Parti communiste.
Et le Parti communiste. Et
accessoirement, Parti
Alors,
communiste.
Alors d'abord, oui. France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Monsieur Ipsos, Brice Nainturier, une réponse, un éclairage.
Pour France Insoumise et le Parti communiste français, si on agrège ces deux forces, on serait entre 12 et 22 sièges. Donc là aussi, il n'y a pas obligatoirement un groupe, puisqu'il faut avoir qu'un siège pour former un groupe, qui pourra être formé à l'issue des élections législatives. On ne le sait pas, mais on tourne autour de 12 à 22 sièges. On n'a pas de simulation pour les écologistes en tant que tels. Souvent, ils ont soit le soutien du Parti socialiste, soit pas de candidat socialiste en face d'eux. Donc on crée un agrégat à ce stade, en tous les cas, un agrégat PS, PRG, divers gauches, et écologiste, et à ce moment-là, on est entre 25 et 35 sièges. Donc dans les deux cas, j'espère que cela répond, monsieur, à votre question, c'est relativement peu.
Mais alors comment, excusez-moi, Arnaud Saturier, comment, en ayant 20% des voix, on tombe à si peu en tant que...
Eh bien, tout à l'heure, un des intervenants, Arnaud Leparmentier, l'a très bien expliqué. Donc, parce qu'on a une force en marche.
Ouais.
J'ai essayé de le dire aussi, parce qu'il y a une force en marche qui obtient aux alentours de 30% des voix, là où le second n'obtient que 22-23%, ça c'est pour la droite traditionnelle, et la gauche est encore plus faible. Donc déjà, ça assure une qualification, et qu'ensuite la position centrale de cette force fait que, suivant les duels auxquels elle est confrontée, elle reçoit à chaque fois un afflux partiel, mais un afflux quand même, de voix venant tantôt de la gauche, tantôt de la droite. Donc c'est une mécanique qui est assez implacable, au moins sur le papier, parce qu'elle favorise énormément cette force-là, et beaucoup plus que son niveau de départ, qui encore une fois tourne plutôt entre 26 et 30%. C'est ça qui fabrique cette chambre peut-être très massive en faveur de La République En Marche.
Rémi Lefebvre, 30 dernières secondes.
Oui, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a l'effet majoritaire d'amplification, mais aussi ce suicide collectif de la gauche aux élections législatives. Il y a 5, 6, 10 candidats parfois dans les circonscriptions. Une confusion totale, une absence d'union totale. Dire, concrètement, c'est stupéfiant. La gauche est en train de s'atomiser toute seule. Effectivement, les électeurs de gauche n'y comprennent plus rien. Mélenchon veut tuer les autres partis. Donc on assiste en fait à un règlement de compte à hockey choral. Et tout ça va se faire au prix d'une représentation législative de la gauche qui va être historiquement basse. Donc c'est assez incroyable. Et même finalement, Jean-Luc Mélenchon ne va pas du tout réussir à convertir l'essai de ses 19% au premier tour, puisque même s'il a 15-20 députés, il sera de très très loin une minorité dans cette future Assemblée nationale. C'est donc une gauche en charpie. Et même finalement, la gauche plus radicale ne va pas du tout tirer les marrons du feu de cette situation qui est, je le répète, je pense, inédite sur le plan de la gauche à une élection législative.
Rémi Lefebvre, politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille, en duplex de France Bleu Nord à Lille. Merci à eux. Merci à vous, Arnaud Leparmentier, Frédéric Mettezeau et Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Merci à tous les quatre. Dans moins d'une minute, un nouveau journal sur Inter.